dans cette rue tranquille.
Histoire de cinéma, Jean-Philippe Gunet.
Un mystère se révèle.
Coulisses, anecdotes, secrets de tournage.
Houston, je n'ai plus le Dr Stone en visuel. Houston, je n'ai plus le Dr Stone en visuel.
Redécouvrez les plus grands films autrement.
Et une aventure commence.
C'est écrit dans tous les livres d'histoire. De 1914 à 1918, 1 400 000 soldats français sont morts au combat. Le fait est tellement bien ancré dans l'inconscient collectif que les 4 300 000 blessés passent presque inaperçus. Quant aux 350 000 disparus, ils sont carrément relégués aux oubliettes. Pendant des décennies, leur cas est resté dans le cercle du service historique de la défense, des associations spécialisées et des historiens. Pour que le voile se déchire, pour que ces hommes retrouvent une place dans l'inconscient collectif, il a fallu un film. Réalisé par Bertrand Tavernier, il s'appelle « La vie et rien d'autre » et date de 1989. À la fin des années 80, Bertrand Tavernier est une des figures du cinéma français. Il compte 10 films à son actif, comme « L'horloger de Saint-Paul », Que la fête commence, Le juge et l'assassin et Coup de torchon. Il découvre l'histoire des disparus de la Première Guerre mondiale totalement par hasard en lisant La Der des Der, un roman de Didier Deninx paru en 1985. La Der des Der est située en 1920. Il raconte les péripéties d'un soldat reconverti en détective privé. Le cinéaste apprend donc que de nombreux soldats français ont été portés disparus. Il ouvre un quid et il tombe sur ce chiffre qu'il qualifiera de délirant tant il ne s'y attendait pas, 350 000 disparus. Tavernier contacte alors le scénariste Jean Cosmos, avec qui il siège à la SACD, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Jean Cosmos a déjà travaillé sur la Première Guerre mondiale avec la série La Dictée, diffusée en 1984. Il commence son enquête, qui lui vaut quelques surprises. Il pense trouver une mine de renseignements, mais s'aperçoit qu'en réalité, il n'y a quasiment rien. Il contacte le service historique de la Défense, qui répond qu'ils n'ont rien sur les disparus. Mais ils lui fournissent tout de même un inventaire des nécropoles et des cimetières. Il effectue aussi des recherches auprès de la Croix-Rouge. Dans la réalité, le ministère de la Guerre avait un bureau du renseignement des familles, directement rattaché au cabinet du ministre. Comble de l'absurdité bureaucratique, ce bureau ne centralisait pas les actes de décès. L'identification des corps était difficile, dès lors, on comprend pourquoi il était si compliqué de retrouver des disparus. Pour La vie et rien d'autre, Jean Cosmos et Bertrand Tavernier imaginent une unité fictive entièrement dédiée à la recherche et l'identification des disparus. Son chef, le commandant Delaplane, est un officier compétent, humaniste, mais également indocile. Les horreurs de la guerre le révulsent, il n'hésite pas à critiquer à voix haute les insuffisances de l'armée. Le scénario raconte aussi la quête du soldat inconnu qui sera enterré sous l'Arc de Triomphe à Paris. Lorsque Bertrand Tavernier se met en quête d'un financement, toutes les portes se ferment. Les investisseurs sont frileux et trouvent le sujet déprimant. Un cadre de Hachette viendra même dans le bureau de René Kleitman, le producteur du film, pour supplier Bertrand Tavernier de renoncer, lui dire qu'il est prêt à lui payer intégralement son contrat s'il ne fait pas le film, et lui signer un autre contrat. Le cinéaste refuse tout net cette proposition pour le moins surprenante. Les chaînes de télévision ne veulent pas financer le film non plus. Du coup, Tavernier se retrouve avec un budget minimal. Sa société de production Little Bear doit renoncer à une partie de ses droits. Toute l'équipe du film est payée au minimum syndical. Pour le rôle principal, celui du commandant Delaplane, Tavernier pense tout de suite à Philippe Noiret. Les deux hommes ont déjà fait 6 films ensemble et se connaissent par cœur. Pour jouer Irène de Courtil, une femme en quête de son mari disparu, Tavernier voudrait Fanny Ardant, mais l'actrice est enceinte et donc indisponible. Du coup, le cinéaste choisit Sabine Azéma, qu'il avait déjà dirigée dans Un dimanche à la campagne. Dans la galerie des rôles secondaires, un marque plus que les autres, celui du général Villerieux, le supérieur de Delaplane. Il est joué par Michel Duchaussois. L'extrait que vous allez entendre est tiré de la scène où le général vient voir Delaplane pour tenter de lui coller la mission de trouver le soldat disparu qui ira sous l'Arc de Triomphe. Tentative vaine.
Coincé ! Il me faut un poilu inconnu, c'est votre truc.
Non, mon général. Je vous l'ai déjà dit, je m'en tiens à ma mission. Les inconnus, non. Je suis chef du bureau de recherche
et d'identification... Ah, vous recherchez, donc ?
Et d'identification des militaires tués.
Ou disparus, en plein votre truc. Disparu, inconnu, hein ? Perrin, votre avis ?
Le tournage de La vie et rien d'autre dure 8 semaines, en novembre et décembre 1988. Tavernier filme à Verdun. Le théâtre est réaménagé pour servir de siège à l'unité de recherche des disparus. La séquence du tunnel est tournée en Haute-Marne, près de Tonnance-les-Moulins. Pour la scène finale, c'est dans l'Aude, dans la propriété de Philippe Noiret. L'acteur voudrait porter de véritables uniformes de la Première Guerre mondiale, mais c'est impossible à cause de sa grande taille. Noiret mesure 1m85, bien plus que les standards de l'époque. Il peut tout de même arborer d'authentiques capotes et médailles, et pas n'importe lesquelles, celles de son père, Pierre-Georges Noiret, qui avait fait la Grande Guerre et a été décoré 4 fois. Œuvre profondément pacifiste, La vie et rien d'autre sort sur les écrans français le 6 septembre 1989. 1,5 million de spectateurs viennent le voir en salle, ce qui en fait le deuxième plus gros succès de Bertrand Tavernier, derrière Coup de torchon. Le film sort ensuite en Allemagne de l'Ouest, en Italie, en Belgique, en Suède, dans la ville de New York et en Australie. Il est sélectionné pour le Festival de Toronto. Au César 1990, le film compte 7 nominations. Il repart avec 2 statuettes, une pour sa musique, signée Oswald d'Andrea, et une autre pour Philippe Noiret. C'était son deuxième César, après celui obtenu en 1976 pour Le Vieux Fusil. Presque 30 ans plus tard, La vie et rien d'autre reste une rareté. L'après-guerre, les blessures psychologiques, le cinéma français n'en parle pas souvent. Il en est question dans Un long dimanche de fiançailles, France et Au revoir là-haut. Mais personne d'autre que Bertrand Tavernier ne s'est penché sur le cas des 350 000 disparus.
C'était Histoire de cinéma avec Jean-Philippe Gunet. À retrouver chaque semaine et en podcast sur notre site internet artdistrict-radio.com.